Les podcasts du Collège de France, Histoire.
Comme vous l'avez vu, j'ai gardé quelque chose qui n'était pas énoncé, dans la mesure où ce n'était pas énoncé par les documents que l'on a rencontrés jusqu'à maintenant, c'est-à-dire on peut connaître le titre de la pièce représentée en 1613, Cardeno, Cardena, mais pas ses auteurs. Les dramaturges ne sont pas nommés dans les comptes du trésorier de la Chambre du Roi, puisque ce paiement se fait à la compagnie théâtrale. Mais 40 ans plus tard, le 9 septembre 1653, un libraire, éditeur de la Stationer's Company, Humphrey Mosley, fait enregistrer par la communauté des libraires et imprimeurs de Londres les titres de 41 pièces de théâtre sur lesquels il veut acquérir un writing copy, c'est-à-dire le monopole de leur publication. Et il lui en coûte 20 shillings et 6 pence, qui donc lui donne le writing copy sur tous les titres qu'il a entered dans le registre de la corporation. Dans ces 41 pièces, et peut-être plus si on admet que pour réduire les droits versés, Mosley a présenté comme une seule pièce avec un double titre, ce qui était en fait peut-être deux pièces différentes. On rencontre le titre suivant, The History of Cardenio by Master Fletcher and Shakespeare. C'est donc la première attribution de ce Cardenio à deux dramaturges, John Fletcher et Shakespeare. Le nom de Shakespeare réapparaît trois autres fois dans cette liste de titres pour lesquels Mosley demande le writing copy. Il apparaît pour un Henry I and Henry II by Shakespeare and Davenport et pour une pièce The Merry Devil of Edmonton by William Shakespeare. Des deux premiers Henri, Henri Ier, Henri II, Henri II, on ne sait rien, sinon qu'une pièce de Henri Ier avait été autorisée en 1624 et à ce moment-là attribuée à Davenport, et aucun critique shakespearien n'a jamais ni retrouvé les textes, ni attribué un Henri Ier ou un Henri II à Shakespeare. Et la seconde pièce, The Merry Devil of Edmonton, a pour sa part été enregistrée en 1607, publiée quatre fois sans nom d'auteur entre 1608 et 1653, et là encore, jamais n'est entré dans le corpus canonique shakespearien, quelle qu'en soit la variation. Ce qui fait qu'on peut avoir quelques doutes ou incertitudes sur certaines des entries de Mosley. Reste Cardenio, dont on peut penser que Mosley avait évidemment un manuscrit, puisqu'il fallait, au moment où l'on faisait enregistrer les pièces, déposer la copie. Le writing copy doit être pris dans un sens très matériel. Ce n'est pas simplement entrer un titre, mais aussi de déposer pour qu'il puisse être censuré, au sens de accepter, recevoir une license, les textes qui correspondaient à ces titres. Et les deux noms, Fletcher et Shakespeare. Il y a là évidemment un très grand degré de vraisemblance dans la mesure où dans ces années 1612, 13 et 14, Shakespeare et Fletcher travaillent ensemble, ont écrit ensemble trois pièces. All is True qui va devenir, dans le folio de 1623, The Famous History of the Life of Henry VIII, c'est le Henri VIII. La dernière des pièces de la partie du folio qui est vouée aux 10 pièces historiques, histories de Shakespeare, qui commence avec le roi Jean et termine avec Henri VIII, et qui a peut-être été écrite pour le mariage de la princesse Élisabeth avec l'électeur palatin. Une seconde pièce, The Two Noble Kinsmen, les deux nobles cousins, qui ne sera publiée, elle, qu'en 1634, et avec une page de titre qui indique « Written by the memorable worthies of the time », écrite par les gloires mémorables de leur temps, « Master John Fletcher and Master William Shakespeare, gentlemen ». Et les deux noms sont enserrés par une accolade qui les réunit avec le terme « gent », abréviation de « gentleman », juste à hauteur de l'interligne qui les sépare. Donc, la « History of Cardenio » serait la troisième des collaborations entre Fletcher et Shakespeare à la fin de la vie de Shakespeare, lorsqu'il s'est retiré à Stratford-upon-Avon, abandonnant Londres. Le sort éditorial des trois pièces a été très différent, puisque, je le rappelle, Henri VIII va entrer dans le premier corpus canonique shakespearien, le Folio de 1623, avec ses 36 ou 37 pièces, ça dépend des éditions, enfin, ou plutôt ça dépend des exemplaires, la présence ou non de Troilus and Cressida. Tandis que ni Cardenio ni The Two Noble Kinsmen vont accéder au Folio. La raison est sans doute celle-ci. Les deux éditeurs, au sens de editors, du Folio, Heming et Candel, qui avaient été d'anciens compagnons de troupe avec Shakespeare, eux aussi propriétaires de part de la compagnie, voulaient construire un monument à la gloire de l'auteur et donc avaient décidé d'exclure toutes les pièces qu'ils suspectaient avoir été écrites ou qu'ils savaient avoir été écrites en collaboration. Ce qui fait que les pièces dans lesquelles Shakespeare avait collaboré n'entrent pas dans le Folio. Henri VIII serait une exception, mais ici la discussion est ouverte, c'est-à-dire ce n'est peut-être qu'au XIXe siècle que l'on a eu une vraie conscience que Henri VIII pouvait être aussi une pièce en collaboration, ou bien, même si Heming et Candel le savaient, ils avaient besoin d'Henri VIII pour créer cette partie originale du Folio qui est Histories, narrer l'histoire des rois d'Angleterre à travers une série d'œuvres dramatiques, en commençant avec Jean sans terre et en terminant avec Henri VIII. Quoi qu'il en soit, Cardenio, The History of Cardenio, n'est pas entré dans le Folio de 1623, pas plus que The Two Noble Kinsmen. On aurait pu penser que la pièce aurait pu, elle, aussi avoir une seconde chance de publication lorsque Mosley a publié en 1647, donc avant sa demande de copyright de 1653, le Folio des œuvres théâtrales de Beaumont et Fletcher, ce qui était le troisième grand folio dramatique. D'ailleurs, l'utilisation de ce format noble, jusque-là réservé aux auteurs de l'Antiquité, aux textes théologiques, aux grands poètes comme Spenser, 1611, ou bien aux œuvres du roi lui-même, du roi Jacques. L'entrée d'un genre très subalterne, le théâtre, dans cette forme éditoriale particulièrement noble. Trois folios ont illustré cette canonisation, non pas seulement de l'auteur, mais aussi du genre. Le folio de Ben Jonson en 1616, voulu par lui, organisé par lui. Le folio shakespearien, Shakespeare mort en 1616, de 1623, édité par Heming et Candel. Et en 1647, le folio des œuvres de Beaumont et Fletcher. Mais sans doute, Mosley ne possédait pas en 1647 un manuscrit de la pièce Cardenio, pour laquelle il demande un copyright, ou un writing copy. Copyright est un mot qui apparaît qu'au XVIIIe siècle. Writing copy en 1653. Et Cardenio ne se trouve pas plus dans les œuvres de Fletcher qu'elle ne se trouve dans les œuvres de Shakespeare. En 1653, le contexte de cette demande de writing copy pour 41 pièces par Mosley est un contexte qu'on pourrait dire directement politique. Mosley est un libraire de la Stationer's Company qui est un fervent royaliste. Or, à partir de 1642, comme je le disais, les théâtres ont été fermés parce que le genre était lié avec la cour et avec les représentations à Whitehall, ou parce que le genre était la cible de la critique puritaine contre une licence ou une immoralité de nombreuses pièces. Et dans un geste éditorial qui était en même temps un geste politique, Mosley décidé de publier les textes de théâtre que l'on ne pouvait plus voir représentés sur la scène. Avant même le folio de Beaumont et Fletcher, en 1646, il avait demandé déjà une série de writing copies pour 30 pièces de Beaumont et Fletcher, celles qui seront publiées en 1647, mais aussi des pièces de Davenant, de Shirley, de Carlyle, de Wilson. Donc il y a une volonté politique de Mosley de publier du théâtre en un temps où les théâtres sont fermés. De ce point de vue-là, le Cardenio n'a pas une importance particulière. Il est dans la liste « The History of Cardenio by Master Fletcher and Shakespeare », dans cette longue liste de pièces dont il a des manuscrits et qu'il voudrait publier. Simplement, l'importance est liée au fait qu'il s'agit dans cette liste de la seule pièce où le nom l'une des quatre pièces où le nom de Shakespeare apparaît, et d'autre part, parce qu'il s'agit là d'une pièce qui peut faire écho, je l'avais dit l'année dernière, à une certaine présence du Don Quichotte de Cervantes dans le contexte de la Révolution anglaise. En 1652, a été publié par Gayton un livre qui est un livre assez curieux de réécriture en vers de certains passages de Cervantes ou de certains passages de la traduction de Shelton de Cervantes et qui sert à Gayton comme une sorte de métaphore de la scène politique et littéraire anglaise du temps. Le titre est « Pleasant Notes upon Don Quixote », notes plaisantes sur le Quichotte. Résultat de cette histoire de 1653 qui nous a apporté, après le titre de 1613, une identification, une attribution de deux auteurs, Fletcher et Shakespeare, et que Mosley jamais ne va imprimer, faire publier sous la forme imprimée la pièce dont il avait sans doute un manuscrit et pour laquelle il avait obtenu, avec beaucoup d'autres, un writing copy en 1653. Alors, c'est le troisième temps. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Une pièce perdue dont on connaît le titre, Cardenio, et dont on connaîtrait les deux auteurs, John Fletcher et William Shakespeare. L'histoire aurait pu s'arrêter là et, en fait, le cours n'avoir jamais lieu sur ce sujet. Sauf qu'en 1727, Lewis Theobald, on prononce à la suite de Pope, avec qui les conflits ont été très grands, Thibald, mais cela s'écrit Theobald, T-H-E-O-B-A-L-D, qui était un des éditeurs de Shakespeare, le troisième au XVIIIe siècle, après Nicholas Rowe, 1709, et Alexander Pope, 1723-25, Lewis Theobald, donc, qui avait entrepris une édition des Complete Works de William Shakespeare, fait représenter en cette année 1727, sur la scène du Theatre Royal à Drury Lane, à Londres, une pièce intitulée Double Falsehood, sans E, F-A-L-S-H-O-O-D, or the Distressed Lovers, que l'on pourrait traduire un peu à la Marivaux comme la double imposture ou les amants affligés. Alors je reviens sur une question qui m'a été posée, ou plutôt une critique juste, qui m'a été faite quand je traduisais tout à l'heure Gracioso, le personnage comique de la Commedia, comme gracieux. C'était gracieux, mais ce n'était pas forcément très exact par rapport aux traductions françaises de Gracioso, qui, si on reste dans l'univers du théâtre, pourrait être traduit par bouffon. Donc la traduction de ce que disait la Douane pourrait être le fou et bien bouffon. El loco es gracioso. Fin de la parenthèse, retour à Théobald et à sa double imposture ou les amants affligés. Cette pièce a été publiée l'année suivante, en 1728, dans un format classique, le quarto, et la page de titre est pour nous l'élément clé qui fait que le cours peut avoir lieu. Written originally by W. Shakespeare, écrite originellement par William Shakespeare, and now revised and adapted to the stage by Master Theobald, et maintenant révisé et adapté pour la scène par Monsieur Theobald, the author of Shakespeare Restored. Alors, ceci était une manière d'indiquer pour le public ce titre que revendiquait Theobald, non seulement de dramaturge qui avait révisé, adapté une pièce écrite originairement par Shakespeare, mais qui était un shakespearien, puisque ce Shakespeare Restored était un court texte qui avait été publié 3 ans auparavant, 1725, et qui était une critique destructrice de l'édition de Shakespeare par Pope, et en particulier en prenant la pièce d'Hamlet et en montrant toutes les erreurs d'interprétation faites ou d'édition faites par Pope. Et dans sa préface, Lewis Theobald, donc, qui se situe lui-même comme l'éditeur de Shakespeare, capable de restaurer le texte tel que Shakespeare l'a voulu ou l'a écrit, et d'autre part qui adapte pour la scène une pièce originellement écrite par Shakespeare, mais perdue, Theobald indique dans sa préface qu'il possède 3 manuscrits d'une pièce perdue de Shakespeare, qui est celle qu'il va adapter sous le titre donc The Double Falsehood or The Distressed Lovers. Et un de ces manuscrits, dit-il, est Above 60 Years Standing, donc plus de 60 ans, donc dans les années 1660, donc dans le temps de la Restauration. Le titre Cardenio n'est nulle part mentionné, mais il est évident que le spectateur ou le lecteur qui lisait ou écoutait la pièce ne pouvait que reconnaître les personnages de la nouvelle de Cardenio dans l'intrigue mise sur la scène par Lewis Theobald, et donc ne pouvait que référer cette pièce perdue à The History of Cardenio de 1613 puis 1653 pour la demande de writing copy par Mosley. Theobald a changé les noms. Cardenio est devenu Giulio, Lucinda Leonora, Dorothea Violante et Fernando Enriquez, mais les personnages, leur histoire, leurs relations avec des déplacements que j'analyserai dans d'autres cours, sont bien ceux de Cervantes et, on peut le penser, si Theobald dit vrai, ceux de la pièce de 1613. À la différence des deux dramaturges que j'ai déjà évoqués, c'est-à-dire Guillén de Castro et Pichou, un siècle auparavant, Lewis Theobald n'introduit pas Don Quichotte dans sa pièce. Même si, dans la préface, après avoir rappelé qu'il possède 3 manuscrits d'une pièce perdue de Shakespeare et que cette pièce perdue de Shakespeare a été inspirée par le Don Quichotte de Cervantes, donc il maîtrise, il connaît cette histoire de la transmission des textuels. Néanmoins, il n'introduit pas Don Quichotte dans la pièce « Double Falsehood », qui est entièrement vouée aux amants affligés et finalement heureux. Faut-il en conclure que la pièce de 1613, elle non plus, n'introduisait pas Don Quichotte ? Ce serait peut-être aller un peu vite dans la mesure où on ne doit pas oublier que si Theobald dit vrai, que la pièce a été par lui revised et adapted, et la révision ou l'adaptation au XVIIIe siècle des pièces antérieures à la Révolution est gouvernée par une extrême liberté dans la réécriture, comme le montre une précédente adaptation qu'avait fait le même Theobald. Et là, on a à la fois le texte shakespearien et le texte de Theobald, c'est-à-dire l'adaptation qu'il avait fait de Richard II. totalement transformé dans son sens politique et totalement investi par une histoire de passion amoureuse qui n'est pas présente de cette manière-là, en aucune façon, dans le texte de Shakespeare. Alors c'est à partir de l'œuvre de Théobald que je voudrais construire le cours de cette année, c'est-à-dire les cinq autres cours que nous aurons d'ici la fin ou le milieu de décembre, puisque, après tout, c'est la seule trace textuelle que nous ayons du Cardenio de la cour, enfin représenté à la cour, en 1613. Et à partir de la pièce de Théobald, que l'on peut lire, puisqu'elle est conservée, a été imprimé, réédité, il y a des éditions récentes, se pose la question, une série de questions fondamentales qui seront derrière cette interrogation. Vous l'avez compris, je pense, depuis l'année dernière, entrer avec ce mystère textuel, c'est pas simplement construire une petite intrigue sur le Cardenio perdu, c'est aussi qu'à travers cette histoire, on peut atteindre à des problèmes essentiels, fondamentaux de la culture écrite et de son rapport avec la fiction dramatique ou narrative à l'époque moderne, au XVIe et XVIIe siècle. Dans ce cas-là, trois questions fondamentales. La première, comment penser cette relation que le critique shakespearien David Castan a qualifiée de schizophrénique au XVIIIe siècle, entre d'un côté la volonté de restaurer philologiquement les textes shakespeariens, ou les textes du XVIe, XVIIe, mais les textes shakespeariens d'abord, dans les éditions, et de l'autre côté, cette liberté d'appropriation, d'altération, de réécriture, lorsque ces mêmes textes shakespeariens ne sont pas pensés dans une perspective d'édition, mais dans une perspective d'adaptation théâtrale à toutes les nouvelles normes qui gouvernent le théâtre depuis la Restauration et qui sont à très grande distance des règles qui pouvaient gouverner les représentations du XVIe ou du XVIIe siècle. Donc cette relation chez les mêmes individus, Théobald comme auteur de Shakespeare Restored et entrant dans des polémiques philologiques sur l'état du texte qu'il faut éditer, et de l'autre côté, s'emparant de Richard II, s'emparant du Cardenio pour en donner des adaptations qui correspondaient aux attentes, aux dispositifs de représentation, aux conventions nouvelles du théâtre à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle. La deuxième question fondamentale, c'est celle évidemment de la présence, voire de l'omniprésence de Don Quichotte dans l'Angleterre de la Restauration et du premier XVIIIe siècle. Telle que l'assure la multiplication des traductions. Jusqu'en 1687, celle de Shelton est la seule, mais à partir de 1687 et de la traduction de John Phillips, vont se multiplier les traductions au cours de la première moitié du XVIIIe siècle. D'autre part, assure la présence du Don Quichotte des éditions abrégées de l'immense Historia, particulièrement si on considère les deux parties, 1605 et 1615, ou encore des adaptations théâtrales, celle du Cardenio de Shakespeare lié au Quichotte de Cervantes n'est qu'une des adaptations à l'intérieur d'un flux constant qui va se saisir et ressaisir du Curioso Impertinente, de l'histoire du captif ou de Don Quichotte lui-même. Et la troisième grande question, c'est celle de la mobilité perpétuée des œuvres qui s'ouvre au déplacement d'une langue à l'autre, d'un genre à l'autre, et qui s'inscrivent dans un paradigme de l'écriture que l'idéologie ou l'esthétique romantique a fait un peu oublier, c'est-à-dire à la fois l'écriture en collaboration, comme l'était la pièce de 1613, by Master Fletcher and Shakespeare, et comme l'était peut-être la majorité des pièces du XVIe et XVIIe siècle, même si, dans leurs éditions imprimées, le régime de l'anonymat ou la réduction du nombre des auteurs à un ou deux noms a pu masquer cette pratique tout à fait ordinaire de l'écriture en collaboration. Donc, l'écriture à plusieurs mains ou la réécriture en plusieurs temps. Et l'histoire de Cardenio depuis 1605 jusqu'à 1727 montrerait ce processus où à la collaboration s'ajoute la révision et le réemploi. Donc ce sont les trois grandes questions qui sont derrière les cours que je donnerai, qui porteront à la fois sur la pièce de Théobald, sur Shakespeare au XVIIIe siècle, sur Cervantes au XVIIIe siècle. Mais pour terminer l'exposé d'aujourd'hui, je voudrais partir du présent, du présent au moins en Angleterre ou aux États-Unis, qui est caractérisé par de multiples présences de ce Cardenio qui n'existe pas ou qui n'existe plus. Alors la première présence est plutôt attendue, c'est-à-dire celle donnée par des romanciers qui ont fait de la recherche du manuscrit perdu l'objet de la fiction. Il y a deux romans, anglais ou américains, qui se sont saisis de l'histoire de Cardenio comme un élément essentiel de la narration. C'est en 2002 le roman de Jasper Ford, cet auteur dont le nom s'écrit avec deux F, O-R-D, et le livre s'appelle Lost in a Good Book, il y existe une traduction française, où l'histoire est celle d'un agent de détection littéraire qui s'appelle Thursday Next, jeudi prochain, et qui rencontre le Cardenio perdu dans la bibliothèque d'un lord impliqué dans la politique anglaise, Lord Wallace Camper, et lit la première ligne de ce texte perdu qui sonne comme cela, « Now thou, O love, the pangs which I sustain. » Tu connais, ô amour, les souffrances que je supporte. Et donc la première ligne est donnée à Cardenio, dans ce manuscrit-là, imaginaire de Cardenio. En 2007, une romancière américaine, qui a d'ailleurs fait des études d'histoire de critique littéraire anglaise, Jennifer Lee Carroll, dans un roman qui s'appelle « Interred with their bones »,« Enterrés avec leurs os », Kate, l'héroïne, découvre dans une caverne de l'Arizona, après une expédition quasi spéléologique, conservée à l'intérieur d'un exemplaire de Don Quichotte, le manuscrit de Cardenio, qui commence par l'indication scénique suivante, entre l'écuyer Sancho et Don Quichotte, et la première ligne de ce manuscrit imaginé de Cardenio est donnée à Don Quichotte, qui déclare « You keep the gold, friend Sancho, I shall keep the book. » Vous garderez l'argent, ami Sancho, je garderai le livre. Et c'est l'allusion à la découverte dans la Sierra Morena par Don Quichotte et Sancho de la valise ou de la mallette abandonnée par Cardenio, dans lequel il y a effectivement du linge, une somme d'argent en ducat et El Librio de Memoria de Cardenio, ce livret sur lequel Cardenio avait écrit les brouillons de ses lettres ou de ses poèmes d'amour adressés à Lucinda. Alors, on voit que c'est intéressant parce que dans les reconstructions imaginaires du Cardenio qui n'existe pas, qui devient le livre recherché dans l'intrigue quasi policière, plus subtil et complexe dans le cas de Jasper Ford et plus littéral et historique dans le cas de Jennifer Lee Carroll, lorsqu'on découvre Cardenio, on retrouve le balancement dont j'ai parlé tout à l'heure entre est-ce que Cardenio doit intégrer Don Quichotte ? C'est le parti pris par Jennifer Lee Carroll, puisque la première ligne du texte est donnée à Don Quichotte et se réfère à un épisode de la Sierra Morena qui va conduire à la rencontre avec Cardenio. Tandis que dans le cas de Jasper Ford, la première ligne, avec cette imitation de l'anglais poétique du XVIIe siècle, est donnée au seul Cardenio, et nous ne saurons jamais si dans le Cardenio découvert par Thursday Next apparaissait Don Quichotte, de la même manière qu'on ne le saura pas pour la pièce de 1613. Le thème ici, littéraire, de roman, de manuscrit perdu et retrouvé, d'un manuscrit ou d'un livre oublié et redécouvert, on pourrait dire, est aussi ancien que la fiction. Et après tout, Don Quichotte en propose une interprétation originale, avec la disparition à la fin du chapitre 8 du récit qui avait jusque-là narré les aventures de Don Quichotte, en plein moment de la bataille entre Don Quichotte et le Biscayen, manuscrit interrompu, narration perdue, et la reprise de l'histoire grâce à la découverte à l'Alcana, c'est-à-dire dans la rue des marchands à Tolède, des cahier du manuscrit de l'histoire telle qu'elle a été écrite par l'historien arabe Sidi Amete Ben Enkheli. Et donc, le Quichotte lui-même utilisait comme élément de cette articulation entre le chapitre 8 et le chapitre 9, la première et la seconde partie de 1605, le motif de l'histoire interrompue et du manuscrit découvert. Rien d'étonnant donc à ce que l'imagination de certains romanciers contemporains ait pu être très excitée par le mystère du manuscrit shakespearien perdu. Mais plus surprenante est la présence de Cardenio sur les scènes de théâtre en Angleterre et aux États-Unis. Parce que là, la question devient plus aiguë, c'est-à-dire comment peut-on jouer une pièce qui n'existe pas ? À partir de là, il y a plusieurs solutions. La première est de considérer, d'affirmer que Cardenio n'est pas perdu, que Cardenio existe, mais sous un autre titre. Et c'est le parti qui avait été choisi par le metteur en scène Kermit Christian lorsque Cardenio fut représenté deux fois, en 1995 au Palm Beach Shakespeare Festival et repris en mars 1996, avec plus d'écho, en particulier une critique dans le New York Times, au Lynard Theatre à New York. Alors, ce miracle littéraire de jouer le Cardenio qui n'existe pas avait été rendu possible dans cette première perspective par la publication, en 1994, d'un livre de Charles Hamilton, qui n'est pas un critique professionnel, enfin, qui n'est pas un historien de la littérature professionnelle, qui n'est pas un professeur ou un chercheur d'université, mais plutôt un amateur spécialiste en expertise sur les écritures, et qui, en 1994, affirme avoir identifié le Cardenio perdu avec une pièce dont le manuscrit a été conservé et qui porte comme titre, donné par le censeur, c'est-à-dire le Master of Revels, l'officier qui, à la cour d'Angleterre, est chargé de la censure des pièces de théâtre et de l'organisation des plaisirs, auquel George Buke avait a donné le titre de « The Second Maiden Tragedy », en l'absence d'un autre titre sur le manuscrit. La dernière page de ce manuscrit, qui est conservée à la British Library, indique en effet, avec la date de 31 octobre 1611 et la signature de George Buke, « The Master of Revels », This Second Maiden Tragedy, cette seconde tragédie de la jeune fille, for it has no name inscribed, parce qu'il n'a pas de nom inscrit, donc c'est lui qui donne le titre, peut-être, avec les corrections proposées, être joué publiquement. Et Buke a sans doute choisi ce titre, The Second Maiden Tragedy, parce que le texte qu'il a lu lui rappelait une pièce préalable qui avait été écrite par Beaumont et Fletcher et qui s'appelle The Maid's Tragedy. Et la parenté des deux était liée à un point central de l'intrigue, dans les deux cas, un souverain tyrannique, brutal, cruel, veut séduire une femme qui se refuse à lui parce qu'elle est liée à un autre homme et qui, pour ne pas céder à la au tyran se donne la mort. Et dans les deux cas, le tyran lui-même meurt à la fin de la pièce. Alors cette homologie de situation avait sans doute conduit George Buick, dans une pièce qui n'avait pas de titre, à la nommer « The Second Maiden Tragedy ». Alors, Hamilton fondait son idée que cette pièce était Cardenio et que l'auteur en était Shakespeare sur deux arguments. L'un, paléographique, il a reconnu dans le manuscrit de « The Second Maiden Tragedy » la main de Shakespeare par une comparaison systématique avec le testament de Shakespeare, qui est le seul texte un peu long, en dehors de quelques signatures attribuables ou attribuées à la main de Shakespeare. Et d'autre part, il se référait à l'entrée de Mosley de 1653, qui non seulement mentionnait « The History of Cardenio by Master Fletcher and Shakespeare », mais aussi une pièce qui s'appelle, dans ce document, « The Maid's Tragedy, Second Part », et qui a toute raison d'être identifié avec « The Second Maiden Tragedy ». Et pour Hamilton, à la différence de ce que je disais tout à l'heure, ces deux entries pouvaient correspondre à la même pièce qui avait reçu un premier nom par le censeur, le maître des réjouissances, ou des menus plaisirs, on dirait en France au XVIIe, et d'autre part qui avait reçu un nom par ses propres auteurs, Cardenio. Et donc, à partir de ces deux arguments, l'argument de reconnaître la main de Shakespeare dans le manuscrit et d'identifier dans les demandes de writing copy de Mosley, The Second Maiden Tragedy, comme identique à The History of Cardenio, Charles Hamilton avait avancé cette thèse. Inutile de dire que cette thèse n'a pas entraîné la conviction de tous les Shakespeariens, d'abord parce que pour ce qui est de l'expertise paléographique, cela suppose deux hypothèses qui sont loin d'être absolument avérées, c'est-à-dire de considérer que le manuscrit de The Second Maiden Tragedy est un manuscrit d'auteur, et non pas comme la immense majorité des manuscrits écrits par un scribe professionnel. Et d'autre part, ça suppose de considérer que le testament de Shakespeare est holographe, c'est-à-dire a été écrit par Shakespeare lui-même, et cela suppose une difficulté encore supplémentaire dans la mesure où dans ce testament il y a deux écritures assez distinctes qu'il faut référer pour Hamilton à un moment de la dégradation de l'écriture de Shakespeare, malade au moment où il fait des ajouts dans une autre écriture à un testament qu'il avait écrit dans une première écriture plus ferme et plus stable. Ces deux affirmations sont loin de faire l'unanimité. Au-delà, il y a un problème encore peut-être plus fondamental, c'est que vous avez, si vous vous souvenez, The Second Maiden Tragedy, je l'ai évoqué dans la première partie de ce cours, comme étant une pièce dans laquelle il y a une intrigue secondaire qui effectivement est fondée sur Don Quichotte. Mais cette intrigue secondaire, elle est l'histoire du Curioso Impertinente. Et, d'autre part, contrairement à ce qu'affirme Hamilton, il n'y a pratiquement aucun rapport entre l'histoire qui fait l'intrigue principale, celle du tyran cruel qui désire la femme de Govianus, qui était le prince légitime qui a été écarté du trône par le tyran, et cette femme appelée simplement The Lady dans la liste des personnages, se refuse à lui et se suicide. Il n'y a là rien de comparable avec l'histoire de la nouvelle de Cardenio dans le Quichotte. La seule point de comparaison serait un point de départ, c'est-à-dire la trahison de l'ami. Le tyran trahit Govianus et la volonté de séduire son épouse ou son amante, comme le fait Fernando avec Lucinda. Mais immédiatement, une fois posé ce point de départ, qui d'ailleurs structurellement pourrait se retrouver dans un nombre considérable de pièces de théâtre, ne fût-ce que The Maid Tragedy, le développement dans The Second Maiden Tragedy n'a absolument rien à voir avec ni le ton ni les épisodes du Quichotte. Comme je le disais, la lady, pour repousser les avances brutales du tyran, se suicide. Ensuite, son cadavre est volé par The Tyrant. On frôle une scène de nécrophilie. Ensuite, le fantôme de la femme morte vient interpeller Govianus, qui, pour se venger, va récupérer le cadavre, enduire ses lèvres d'un poison, et dans son instinct nécrophile, le tyran va embrasser ce corps mort et les lèvres empoisonnées vont lui transmettre le trépas. On est très loin de l'histoire des amours, et réconciliation du Quichotte. Alors, Hamilton propose l'idée que le génie créateur de Shakespeare est tellement fort que lorsqu'il s'empare d'une histoire, immédiatement, il la transforme. Alors là, évidemment, la différence est si grande que cette explication qui fait reconnaître dans la violence nécrophile de The Second Medon Tragedy l'histoire des amants séparés puis heureux de Cardenio ne paraît pas résister à la critique. Mais malgré cet immense écart, les metteurs en scène anglais et américains ont accepté assez souvent l'hypothèse d'Hamilton et ont représenté la Second Medon Tragedy, qui maintenant est attribuée avec un assez grand degré de certitude à Middleton, comme si il s'agissait du Cardenio de Shakespeare. Soit sous les deux titres, Cardenio or the Second Medon Tragedy, qui était le titre choisi par Hamilton pour son livre, soit sous le seul titre de Cardenio. Et en 1995, même avant cette mise en scène donnée à New York de Kermit Christian, on rencontre la pièce donnée à Pittsburgh, puis en 1998, elle est donnée à Evanston par The Next Theatre Company, puis en Angleterre à l'Université d'Essex et au Globe Theatre à Londres. En 2002, à Los Angeles, The Lone Star Ensemble la donne dans une mise en scène de James Kerwin et dans des costumes modernes. Plus tard, deux ans, en 2004, la Southwest Shakespeare Company la représente à Mesa, dans l'Arizona. Alors, dans ces deux dernières productions, celle de Mesa, Arizona, et celle de Los Angeles, les personnages sont Fernando, Lucinda, Cardenio. Ils portent les noms du Quichotte. Mais évidemment, parce que ont été débaptisés The Tyrant, The Lady et Govianus de la Second Medon Tragedy, ce qui rend encore plus absurde la situation, puisque les relations possibles entre les personnages de la Second Medon Tragedy et leur nom, c'est-à-dire la référence à ce qu'ils sont dans Don Quichotte, est extrêmement problématique. Mais ce baptême par les metteurs en scène des personnages de Middleton, avec les noms de Cervantes, donc implicitement de Shakespeare et Fletcher, était une manière de répondre à une critique très ironique qui avait été faite lors de la représentation de 1996 à New York, où les personnages avaient gardé les noms de The Second Medon Tragedy. Et le critique du New York Times avait écrit « Unfortunately, there is no character in Mr. Hamilton's play named Cardenio ». La pièce s'appelait Cardenio, mais malheureusement, disait-il, il n'y a aucun personnage dans la pièce de M. Hamilton qui porte le nom de Cardenio. Alors ça, c'est la première stratégie, c'est identifier la pièce, une pièce existante, comme étant le Cardenio perdu. Vous voyez les efforts ou les hypothèses ou raisonnement qu'il est nécessaire pour arriver à cette conclusion, dont je le dis très clairement, elle n'a jamais été acceptée par la critique shakespearienne, mais en revanche a nourri des représentations nombreuses depuis 1995 de cette pièce donnée comme Cardenio et qui est de fait The Second Medon Tragedy et qui aujourd'hui a été publiée dans les Complete Works de Thomas Middleton. Alors, je termine avec les deux autres hypothèses possibles. La première, c'est Je vais juste le mentionner parce que je recommencerai le prochain cours avec cette remarque. La seconde, c'est de retourner à The Double Falsehood, c'est-à-dire la pièce qui, elle aussi, existe, de Théobald et qui se disait être une adaptation d'un manuscrit ou de plusieurs manuscrits de la pièce perdue de 1613, et de voir quelles opérations sont nécessaires dans ce cas-là pour reconstruire la pièce perdue à partir de son adaptation supposée, vraisemblable, de 1727, ou bien d'écrire soi-même un Cardenio sans prétendre faire une reconstruction historique, et qui a été le cas de la dernière pièce à l'heure actuelle représentée sous ce titre à Cambridge, Massachusetts, pendant le printemps de 2008, et une pièce écrite par Charles Smee, un dramaturge, et par Stephen Greenblatt, le plus shakespearien des critiques shakespeariens, auteur à la fois des Shakespearean Negotiations, qui était un livre fondateur pour la perspective critique du New Historicism, et auteur d'une biographie de Shakespeare qui est transformée en un véritable best-seller aux États-Unis et en Angleterre, Will in the World, qui, avec me, a écrit donc un Cardenio. Et là encore, intéressant de voir comment cette inspiration, qui ne prétend pas reconstruction, conduit à organiser une pièce contemporaine. Donc, pour résumer, et en laissant ouvert ces deux ultimes stratégies pour pouvoir jouer une pièce qui n'existe pas, le point fondamental, me semble-t-il, est que nous sommes face ici à une mobilité, une malléabilité textuelle qui permet plusieurs opérations, soit décider qu'une pièce perdue ne l'est pas, mais qu'elle existe sous un autre nom, soit essayer de reconstruire un texte du XVIIe siècle à partir d'un état, d'une adaptation de ce texte au XVIIIe siècle, soit, comme l'ont fait d'autres écrivains, fascinés par la possibilité de faire exister des textes qui n'existent pas, je dirais peut-être un mot, mais des auteurs comme Bolaño, Piglia, qui sont des romanciers contemporains, chiliens dans le premier cas, argentins dans le second, ou bien sûr leur maître absolu, c'est-à-dire Borges, de faire exister des textes qui n'existent pas en les écrivant soi-même et en leur donnant une relation avec le texte disparu, soit les présentant comme le texte disparu, soit, comme dans le cas de Mee et Greenblatt, comme étant inspiré par le texte disparu. Je me semble que là, ce serait une transition avec la semaine prochaine, c'est-à-dire pourquoi cette histoire peut avoir de l'importance au-delà même de son détail, de son anecdotique, parce que, me semble-t-il, elle permet de confronter deux éléments qui ont traversé toute la culture écrite, particulièrement de l'époque moderne, mais pas seulement. C'est-à-dire, d'un côté, l'extrême malléabilité des textes, poussée au point paroxystique lorsque le texte original n'existe pas, ou plus, et de l'autre côté, ce qui fait tout de même l'unité que j'ai essayé de ne pas imposer d'entrée dans la perspective de recherche qui est la mienne, mais c'est-à-dire que si cette pièce perdue, à l'inverse de centaines d'autres pièces perdues, a pu fasciner, créer ces représentations de théâtre ou ces intrigues de romans, c'est parce qu'elle était attribuée à un nom plus que canonique, William Shakespeare. Merci.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.